Dernière. Le titre du message, je te le rappelle ou je te l'apprends, c'était, et certains ont dû réajuster leur manière de penser pendant le message. Certains se sont pris un choc, et peut-être qu'en réécoutant le message, ils ont pu dire, tu sais, hey, ça me donne de reconsidérer les choses. C'était, sans toi, tu es pardonné. C'était, sans ta confession, tu es pardonné, parce que c'est le sang qui t'a pardonné. Et juste pour ceux qui seraient nerveux, un peu au milieu de nous, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? À quoi sert la confession? Eh bien, Hébreux nous le dit, ça sert juste à purifier notre conscience. C'est pour nous. Le pardon a été donné il y a 2000 ans. Sans toi, tu es pardonné. Ça aide à s'approcher de Dieu, hein? C'est énorme! Dis à ton voisin, tout va bien. Bien. Est-ce que tu es prêt à entendre le reste de la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce que tes pensées soient renouvelées? Oui? Alors... Je vous assure, on va passer un bon moment autour de la parole de Dieu. Et ce qui veut dire que ce qu'il y a de religieux n'a pas sa place dans l'Évangile. Et c'est ce qu'il faut, amen, c'est ce qu'il faut, il y a quelques-uns qui sont enthousiastes là. C'est ce qu'il faut pour que l'Église de Jésus-Christ règne sur la terre comme au ciel dans notre génération. S'il y a la religion qui est mêlée à l'Évangile, la Bible nous dit que la religion annule la parole de Dieu, la tradition annule la parole de Dieu. Et quelquefois, sans s'en rendre compte, il y a des croyances qui se sont glissées et qui commencent à diluer la révélation de l'Évangile. L'Évangile lui-même ne peut pas être dilué, il n'est pas diluable. Je ne sais pas si ça existe ce mot, maintenant ça existe. Mais il n'est pas diluable l'Évangile. On ne peut pas retirer de la puissance de l'Évangile, il est puissant. C'est ce que l'apôtre Paul nous disait dans Romains chapitre 1, il dit « je prêche la bonne nouvelle » et il dit « cette bonne nouvelle-là, eh bien, elle est la puissance de Dieu ». Mais ce qui se passe, c'est que si une personne a plus de tradition que d'Évangile, eh bien, la tradition va prendre plus de la personne va se diriger vers ce qu'elle croit de cette tradition. Et conséquemment, eh bien, sa vie personnelle sera affectée. Dis-toi bien que ta vie personnelle dépend de ce que tu crois. C'est aussi simple que cela. Si bien que si tu vas dans une église qui apporte la parole de Dieu dans toute son intégrité, ta vie personnelle sera impactée par la puissance de l'Évangile. Si nous entendons beaucoup de traditions, beaucoup d'opinions, eh bien, notre vie personnelle, au moment du besoin, ne reposera que sur ce que nous avons entendu et que nous croyons. C'est énorme, 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 énorme. Alors, si vous voulez bien, regardez avec moi dans 2 Timothée. Nous allons lire 2 Timothée au chapitre... 2. Verset 16. Il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est 3:16, pardon. À vrai dire, j'avais marqué 2:16 ici. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous est utile. Non? Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, Dieu a voulu que chaque mot nous arrive Et chaque chose qui est écrite dans la Bible est parvenue jusqu'à nous pour que nous en retirions un enseignement, pour que nous nous laissions instruire, pour que nous nous laissions corriger par les exemples qui parviennent jusqu'à nous, pour que nous comprenions ce qu'est la justice, pour que nous marchions dans la justice. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible ne provient pas forcément de la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est écrit. De la même manière que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais même les choses mauvaises qui te sont arrivées dans la vie, Dieu peut t'enseigner de ces choses. Voilà. Donc il y a des tas d'erreurs qui ont été faites au fil des temps, qui ont été retranscrites dans la Bible parce que de ces erreurs, de ces exemples, Dieu veut nous instruire. D'accord. Bien. Donc ça, c'est une chose. Nous sommes d'accord que toute écriture est inspirée. Inspirée veut dire souffler. Dieu a soufflé sur des hommes. Sa parole est venue jusqu'à des hommes qui ont retranscrit ce que Dieu voulait qu'il soit inscrit, que ce qui se soit passé ait été sa volonté ou pas. Nous sommes d'accord. Et quand il est dit « et Judas alla se pendre », d'après vous. Ok. Maintenant, 2 Timothée chapitre 2. C'est magnifique. Il y a un silence plein d'expectatives. C'est magnifique. 2 Timothée chapitre 2. Il nous est dit ici, au verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Donc ici, Paul parle à Timothée, un jeune pasteur qui a été élevé sous son ministère, et il lui dit, « Eh bien, toi qui donnes la parole. » Alors on pourrait dire, « Ah ben tu sais, ce verset ne s'adresse pas à moi. » Ce qui, dans d'autres occasions, aurait pu être le cas. Mais ici, eh bien, dans un sens, il s'adresse à nous tous, que nous soyons appelés au ministère ou pas, parce que tous nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre à donner la parole de Dieu à notre génération. Concernant le salut, concernant la guérison, concernant le pardon, concernant la prière, concernant beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu doit être dispensée avec droiture. Et il dit, alors si tu sais dispenser la parole de Dieu avec droiture, tu n'auras pas à avoir honte. Ce qui veut dire, et l'apôtre Paul, on remonte son raisonnement, que tu auras été un ouvrier, le Seigneur prie pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés dans la moisson, mais le Seigneur veut que ces ouvriers qui sont envoyés dans la moisson, eh bien, ils aient en quelque sorte fait leur travail vis-à-vis de la parole de Dieu, qu'ils aient pris le temps d'étudier la parole de Dieu, qu'ils aient pris le temps de se former dans la doctrine, afin que quand vient le moment de la dispenser, elle ne soit pas mêlée avec des opinions humaines. Une autre version dit ici, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage en annonçant correctement le message de la vérité. Une autre version dit encore, un ouvrier qui n'a aucune raison d'avoir honte, qui a correctement analysé et divisé précisément, qui manipule avec habileté, qui enseigne avec droiture la parole de la vérité. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit que quand nous partageons la parole de Dieu, nous devrions le faire de manière certaine. Ce que nous disons, nous devrions l'avoir vérifié. Pourquoi ? Eh bien justement parce que s'il est possible de dispenser la parole de Dieu avec droiture, il est possible de dispenser la parole de Dieu eh bien, sans droiture. Il est possible de dispenser la parole de Dieu et d'amener le message à dévier. Donc ici, ce message, il est important, hein, la parole de Dieu a un impact à nouveau, je le redis, dans notre vie chrétienne. Alors, dans Actes chapitre 17, ça c'est ma petite introduction, hein, Actes chapitre 17, nous allons voir ici une assemblée qui a un réflexe quand la parole de Dieu est annoncée. Dès que la nuit, au verset 11, dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ah, là, dans le livre des Actes, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'opinion, son opinion. Nous avons ici l'opinion de Dieu. Carrément, nous la lisons. Et il se trouve que le Seigneur, le Saint-Esprit, dit que ceux de Thessalonique avaient des sentiments plus nobles. Est-il possible que le Seigneur puisse juger les sentiments d'un peuple par rapport à un autre, les sentiments d'une église par rapport à une autre? Et la Bible dit oui, clairement oui. Ici, ceux de Thessalonique avaient qui voudrait que Dieu puisse dire de toi? Ouh, il, elle, a des sentiments plus nobles. Tu aimerais que Dieu puisse... Moi, j'aimerais que le Seigneur puisse dire. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse dire de quelqu'un qu'il a des sentiments nobles, voire même plus nobles par effet de comparaison? Il dit, parce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc, apparemment, c'était des gens qui étaient passionnés de la parole. Elle est donnée, eh bien, on écoute entièrement, on reçoit entièrement, on ne traite pas à la légère ce qui est inspiré. Mais il est dit, et la suite est que non seulement ils écoutaient la parole, mais la Bible dit qu'ils ne gobaient pas la parole. C'est-à-dire, ils ne mangeaient pas tout cru ce qui leur était présenté en disant, ainsi dit le Seigneur, c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui ai le titre, voilà ce que vous devez croire. Non, il est dit, non seulement ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais en plus la Bible nous dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils avaient pris l'habitude d'examiner la parole qui leur était servie. Vous remarquerez une chose, c'est que s'ils examinaient chaque jour les Écritures, cela veut dire que chaque jour, ils écoutaient et ils recevaient les Écritures. Ce qui me laisse peut-être dire qu'eux aussi lisaient la Bible par ordre chronologique. Pour ceux de l'Église qui sont en train de lire, hein, vous vous rappelez le tableau qui vous a été donné là. Mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un groupe de maison, que ce soit à l'Église, que ce soit dans leur lecture, la Bible nous dit que chaque jour, ils examinaient les Écritures. Et la Bible nous dit qu'en plus, ils examinaient pour vérifier. Tu t'imagines? Ils osaient vérifier ce qui leur était annoncé. La Bible dit oui, et ça c'est noble. C'est-à-dire, c'est ton devoir de chrétien d'examiner la parole de Dieu qui t'est donnée. Tu ne laisses pas le pasteur faire ce travail-là. Tu ne laisses pas le pasteur étudier seul. Tu ne gobes pas tout ce que tu entends. Tu devrais filtrer ce que tu entends en te demandant, est-ce vraiment les Écritures que j'entends? Pourquoi? Parce qu'après avoir entendu les Écritures, tu as la charge d'appliquer ce que tu as entendu. Vous remarquerez une chose qui est assez intéressante ici, c'est que celui qui prêchait, ce n'était pas n'importe qui. C'était Paul et Silas. Vous imaginez? Le grand apôtre Paul, 2000 ans après, nous sommes toujours en train d'étudier la révélation qu'il a reçue. C'est énorme. Il avait une réputation d'enseignant. Il avait une réputation d'apôtre. Il avait une réputation de quelqu'un qui était établi dans les Écritures. Et aujourd'hui, les gens ne lisent plus la Bible, laissent quelqu'un d'autre faire le boulot sur Internet ou à la télé. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit dit de cette église-là, ils avaient des sentiments nobles. Pourquoi? Parce que peu importe quel était le prédicateur qui était devant eux, ils ne gobaient pas en disant « Ouh là là, ça m'a fait du bien ce que j'ai entendu aujourd'hui. S'il faut, c'était la moitié qui était vraie, mais ça m'a fait du bien. » Non, c'est OK. Merci pour ce que tu m'apportes. Merci pour ce que tu es en train de partager avec moi. Laisse-moi vérifier dans les Écritures si tout ce que tu m'as donné est vraiment inspiré de Dieu et vient de Dieu. Alors, ceci étant dit, eh bien, il s'agit d'annoncer correctement les Écritures. Ma question est, comment est-il possible d'annoncer correctement? Il y a des règles d'interprétation et je vous les redonnerai à nouveau, je les ai déjà données dans cette église, je vous les redonnerai au moment opportun. Mais en tout cas, on va être assez, je dirais, dans l'ordre général. D'une manière générale, comment s'assurer que nous annonçons les Écritures, ce qui veut dire que nous lisons les Écritures correctement, que nous examinons les Écritures correctement. Faut-il faire du grec ? Faut-il apprendre l'hébreu ? Alors, déjà pour vous donner une idée, vous savez, un jour j'ai entendu T.L. Osborne dire cela. Il dit, si tu veux vraiment bien lire la Bible, il faut que tu penses à l'histoire de Dieu dans sa relation avec l'humanité. C'est-à-dire, tu penses à la création, tu penses à la chute et à la rédemption. C'est comme ça que tu lis ta Bible. C'est-à-dire, la chute, et puis avant la croix, et après la croix. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Si ce que tu crois, tu peux le passer dans ce filtre-là, avant la croix, après la croix, je te garantis que tu sauras discerner correctement les Écritures, tu sauras les annoncer avec justesse et habileté, et surtout, ta vie en sera le reflet. Maintenant, cette fondation-là est posée. Alors, j'aimerais que l'on puisse s'approcher de quelques versets. Mais avant cela, je vais préciser quelque chose. Nous avons les livres de la Bible. Il y a ce que l'on appelle l'Ancien Testament, ce que l'on devrait dire avant la croix. Et puis, il y a après la croix. Quel livre avons-nous après la croix ? C'est une question. Quel livre avons-nous après ? Le dernier livre de ce qui est appelé l'Ancien Testament, c'est Malachie. Voilà, clac, toc. Voilà. Maintenant, ça c'est ce qui est appelé l'Ancien Testament. Ma question, certains sont en train de réfléchir. Et ils disent, attends, pasteur, là, il doit y avoir un piège, je n'ai pas encore compris quel est le piège, et d'autres se disent, ouh, elle m'a noyé là. D'accord. Alors, juste la question. Quel livre commence après la croix? Ok, non, il y a des timides. Je sais qu'on a des Suisses, des neutres, mais normalement, il n'y en a que deux au milieu de nous. Hein. Bienvenue d'ailleurs à nos amis suisses qui nous rendent visite. Hein. Ça fait très plaisir de vous revoir. Question, il n'y a que deux neutres ici, donc tout le reste doit avoir... Ok, je vais répéter cette question-là, et on va passer à la suite dès que vous aurez répondu. Quel livre de la Bible commence après la croix ? Et bien voilà, c'est comme ça qu'on commence une guerre. Voilà. Et voilà, aussi simple comme cela. Alors certains disent, oh, bah, moi j'avais entendu que l'Ancien Testament termine à Malachie, le Nouveau commence à Matthieu et va jusqu'aux cartes. Bon, ça c'est une division. Mais si nous lisons la Bible en fonction de avant la croix, après la croix, où commence après la croix ? Le livre des Actes. Pas Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Pourquoi ? Parce que ces livres-là nous parlent de la vie de Jésus qui était encore sous avant la croix. Et combien de chrétiens n'utilisent pas ces livres-là pour vivre comme si Jésus n'avait pas été jusqu'à la croix ? À nouveau, toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu a voulu que ces livres-là, qui sont des livres de transition, soient dans, fassent partie du canon, afin que nous puissions nous laisser instruire. Mais techniquement, si nous prenons avant la croix, après la croix, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont avant la croix. Maintenant, regardez avec moi dans Deutéronome, chapitre 28. Vous êtes avec moi là ? Quelqu'un dit tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Vite, vite, vite. Parce que là, du coup, je n'ai pas écrit ce verset-là sur mon ordinateur. Voilà, 1 à 3. Hein. Donc, là, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Et à partir du verset 3, toute la liste des bénédictions qui viennent sur ceux qui, au verset 1, si, il y a une condition, si, c'est-à-dire que si la condition n'est pas remplie, il n'y a rien de toutes ces bénédictions. Si tu obéis, si tu... Là, l'obéissance de tes parents ne suffit pas. L'obéissance de ta grand-mère ne suffit pas. L'obéissance de ton pasteur ne suffit pas. Si tu quoi ? Pas si tu penses, pas si tu es présent, si tu obéis. Bien, j'ai juste une question. Ce verset est-il avant ou après la croix ? D'accord, donc il y a une condition à la bénédiction. Si tu obéis, alors avant la croix, tu es béni. Ce qui veut dire que si tu n'obéis pas avant la croix, tu vis sous la malédiction. Est-ce vrai ? Est-ce que c'est une interprétation qui est déplacée ? Ou est-ce que c'est ce que nous trouvons dans le texte ? D'accord. Donc ici, c'est clair, si tu obéis, l'obéissance, ton obéissance est conditionnelle à la bénédiction. Mais si tu désobéis, alors tu es sous la malédiction, ce qui veut dire que Dieu va te traiter en fonction de tes péchés. Ou bien il te traite en fonction de ton obéissance, ou alors il te traite en fonction de ta désobéissance. C'est-à-dire, tu subis les conséquences de tes choix dans ta relation avec Dieu. Mais, quelqu'un dit, mais après la croix. Dis à ton voisin, mais après la croix. Regarde avec moi dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13, il nous est dit ici, le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, ou je lis dans cette version, je vais lire d'abord, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ok, juste une pause. Qui nous a rachetés ? Est-ce que tu t'appelles Christ ? Donc, toi, tu ne peux pas te racheter de la malédiction. Tu es hors sujet. Nous sommes d'accord. Bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Qui est maudit ? Alors ma question est, qui a été pendu au bois ? Qui est mort pour nos péchés ? Qui a porté la malédiction ? Et la Bible nous dit, celui qui a été sur le bois est celui qui a porté ma malédiction. D'accord ? Et ensuite, il nous est dit, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham, et on sait qu'Abraham n'était pas sous la loi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les chrétiens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que Dieu a voulu bénir, a voulu que sa bénédiction perdue en Adam soit restaurée, mais il ne pouvait pas compter sur ton obéissance. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a voulu compter sur l'obéissance de quelqu'un d'autre pour que tu sois béni. Comment se fait-il aujourd'hui que nous les chrétiens, nous avons toujours tendance à attribuer la bénédiction, c'est-à-dire la puissance de réussir, le succès à notre obéissance. J'ai pas prié assez, j'ai pas assez lu ma Bible, j'ai pas donné ma dîme, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Alors dans ces cas-là, c'est normal, je suis sous la malédiction. Mes amis, c'est faux de penser comme cela. Sous la croix, la bénédiction, alors je sais ce que certains vont me dire, laissez-moi, j'ai pas fini. Mais sous, avant la croix, la bénédiction, eh bien, dépendait de ton obéissance. Sous, après la croix, la bénédiction dépend de l'obéissance de Christ. Encore une fois, tu n'as rien à voir dans tout cela. Donc aujourd'hui, nous sommes bénis à cause de l'obéissance de Christ. Avant la croix, ton obéissance était une condition, était un prérequis pour la bénédiction. Aujourd'hui, c'est uniquement l'obéissance de Christ qui, de laquelle Dieu tient compte. Alors, comprenons qu'un style de vie juste, écoute-moi bien, ne produit pas la justice, mais la justice produit un style de vie juste. Et là, je vois tous les yeux qui montent au plafond. Un style de vie saint ne produit pas la sainteté, mais la sainteté acquise produit un style de vie saint. Les bonnes œuvres ne produisent pas le salut, mais le salut va produire de bonnes œuvres. Dans Éphésiens chapitre 1, nous voyons clairement la pensée de Dieu avant la croix, après la croix. Éphésiens chapitre 1, au verset 3, il nous est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te bénira de toute bénédiction dans les lieux célestes quand tu auras obéi. » Est-ce ce qui est écrit ? Non, nous pouvons tous le lire. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Apparemment, Dieu n'avait pas besoin de toi. Je répète, Dieu n'avait pas besoin de toi. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas compter sur toi. C'est aussi simple que cela. Si Dieu avait voulu continuer à traiter l'humanité en fonction de ce qu'elle pouvait faire, dans ces cas-là, il fallait qu'il nous laisse, qu'il ne nous empêche pas de parvenir à l'arbre de vie. Pour que nous ne restions pas dans notre péché, pour l'éternité, il nous a barré le passage à l'arbre de vie. Aujourd'hui, Dieu sait qu'il ne peut pas compter, qu'il ne pouvait pas compter sur nous avant la croix. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Nous avions une nature de rébellion en nous. Nous étions ennemis de Dieu. Et cette rébellion, cette nature qui était la nôtre, nous empêchait d'obéir à la loi de Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a dit, je vais simplement par la loi leur montrer qu'ils ne peuvent pas répondre à mon standard. Je vais leur montrer qu'ils sont incapables d'obéir à mes exigences s'ils veulent avoir une relation avec moi, s'ils veulent la bénédiction. Et une fois qu'ils auront compris qui n'arriveront jamais à la hauteur de mes exigences, ils vont capituler, ils vont dire « Mon Dieu, je n'arrive pas à t'obéir, c'est beaucoup trop ce que tu nous demandes. » Et Dieu dira « Ah, maintenant ils sont mûrs pour recevoir par la grâce ce que je veux leur donner. Mais je dois quand même régler le problème du péché. » Parce que légalement, je dois pouvoir les bénir. Légalement, je dois les appeler mon peuple. Légalement, je dois pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? L'Éternel Dieu s'est suscité quelqu'un qui accomplira tous les éléments de la loi. Et une fois qu'il avait accompli tous les éléments de la loi, vous rappelez, c'est fini, ce que nous avons entendu la semaine dernière. Là, le Seigneur a dit maintenant, sur ton obéissance, je bénirai tous ceux qui accepteront ton sacrifice. Il nous est dit ici, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, non pas en fonction de la liste de tes bonnes choses que tu as faites ou des mauvaises choses que tu n'as pas faites, mais en Christ. Si tu es en Christ, ce qui veut dire uni à, alors toute la bénédiction de Dieu est pour toi. Tu peux dire, oui, mais alors, à nouveau, pasteur, ça c'est une licence pour le péché, ça c'est une autorisation, c'est un chèque en blanc pour pécher. Non, pourquoi ? Parce que si nous choisissons de pécher, alors que nous avons en nous la nature de Dieu qui tend à l'obéissance à Dieu, parce que la Bible nous dit, oui, la chair est faible, mais la Bible dit où ? L'esprit, lui, est bien disposé. Et par ce qui est déposé dans notre esprit et la connaissance que nous avons la possibilité de résister à cette chair qui est faible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la désobéissance fait que nous perdons notre assurance devant Dieu. Notre désobéissance fait que ça laisse au diable une occasion de nous accuser. Maintenant, si tu sais qui tu es, tu dis, ok, voilà, ce qui est fait, merci mon Dieu, parce que je crois que j'ai été pardonné il y a 2000 ans. Seigneur, je confesse ma foi dans le sang de Jésus. Et Seigneur, maintenant, je déclare que ma conscience elle-même est pure. Et Seigneur, je vais reprendre la vie avec toi. Seigneur, ta bénédiction ne dépend pas. On est toujours en train de faire la liste des choses que nous avons mal faites ou pas assez faites. Parce que quand même, on ne pêche pas tant que ça. Donc on peut se vanter un petit peu des bonnes choses que nous faisons. Mais c'est insidieux. Parce que nous nous reposons sur cette liste des choses que nous avons faites. Pourquoi négocier ? Non, Seigneur, j'ai besoin de temps à la fin du mois. J'ai besoin, Seigneur, j'aimerais ouvrir une autre entreprise. Seigneur, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Tu sais, Seigneur, ce que j'ai fait pour toi. Et la Bible dit, la bénédiction ne dépend pas de toi. Elle ne dépend pas de toi, elle ne dépend que de l'obéissance que Christ a eue envers Dieu. Nous sommes au bénéfice de cette obéissance si nous acceptons de nous identifier en Christ et qu'il s'est identifié à nous. Est-ce que vous comprenez, avant la croix, c'était ton obéissance, après la croix, c'est l'obéissance de Christ, qu'est-ce qui te reste toi, ta foi ? Ta foi dans l'obéissance de Christ. Je dis ta foi. Quand il est dit de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Bien. Donc, à nouveau, on est béni. Peut-on gagner la bénédiction après la croix ? La Bible nous dit non. Encore une fois, Christ fait le premier pas, Dieu fait le premier pas, et ensuite il nous dit maintenant, est-ce que toi tu souhaites faire le deuxième ? Notre foi, notre marche avec Dieu n'est qu'une réaction du cœur de Dieu pour nous. Dieu d'abord et nous ensuite. Regardons encore, par exemple dans Romains chapitre... Matthieu chapitre 19. On vient de voir ce qui concerne la bénédiction. Regardons ce qui concerne le salut. Et le salut, c'est grand parce que salut, le mot salut, sozo, c'est ce qui parle du salut, le fait d'être sauvé de l'enfer pour l'éternité. Le mot salut comprend le pardon, comprend la guérison, comprend la sécurité, comprend la bénédiction, comprend la protection. Le mot salut, c'est sauver. Quoi que ce soit, de quoi que ce soit que tu aies besoin d'être sauvé, voilà, c'est pourvu par la croix de Jésus-Christ. Maintenant, regardons dans Matthieu chapitre 19, versets 16 et 17. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ah, quelqu'un qui voulait le salut, quelqu'un qui voulait la vie éternelle. Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, quoi ? obéis au commandement. Pause. Il y en a un, ça vient de monter. Ça y est, il a compris. Ici, c'est la réponse de Jésus. Il dit, si tu veux la vie éternelle, obéis au commandement. Maintenant, regardons un autre verset dans Actes chapitre 16. Vous ne trouvez pas que c'est bon, ça? Et si vraiment tu comprends cela, ta foi va augmenter, ton assurance en Dieu va augmenter et Dieu va pouvoir faire pour toi ce qu'il veut faire. Dans Actes chapitre 16, versets 30 et 31, « Puis il leur les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ah, même question. Même question. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Eh bien, si tu crois au commandement de Dieu, tu entreras dans la vie éternelle. » C'est ce qu'il est écrit ? Non. La réponse a été, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et ici, si on ne sait pas discerner correctement la parole de Dieu, on peut trouver une contradiction contrariante. Comment ça ? D'un côté, il me dit que je dois faire de bonnes œuvres pour entrer dans la vie éternelle. De l'autre, il dit, crois. Est-ce qu'on a affaire à un schizophrène ? Non. On discerne correctement la parole de Dieu et on dit, avant la croix, la condition est ton obéissance. Après la croix, quelqu'un dit après la croix. Non, après la croix. Après la croix. Crois au Seigneur Jésus. Est-ce que nous voyons la différence ici ? La bénédiction avant la croix, la bénédiction après la croix. Le salut avant la croix, le salut après la croix. Si je cherche à... Est-ce que tu comprends que la croix a changé l'ordre des choses ? Avant la croix, c'est moi. Mon grand moi. Moi. Et moi. Et moi. Les Français, on est bons pour ça. Hein? Non, les amis suisses, aucun commentaire. N'en profitez pas. Hein? Mais on est comme des coqs. Hein? Faut nous voir à l'aéroport. Hein? Le monde nous appartient. Avant la croix, c'est de moi dont il est question. Moi qui dégonfle très vite parce que le moi ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Moi seul ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Après la croix, c'est lui et moi qui en bénéficie. C'est énorme, 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 énorme. Ce n'est pas d'abord nous, mais c'est lui d'abord. Si je cherche à mériter quoi que ce soit, tu comprends à quel point ça peut impacter ta vie de prière ? Combien de gens, dans la prière, n'essaient pas de mériter quelque chose ? Ils approchent Dieu sur la base de la négociation. Je vais tâcher de mériter. Non, je m'approche de Dieu parce que je suis sauvé, parce qu'il m'a sauvé, à vrai dire, c'est plus correct de le dire comme cela. Je ne me suis pas sauvé moi-même, il m'a sauvé. Je vais m'approcher de Dieu pour être son porte-parole sur la terre, le porte-parole de sa volonté. Et le mieux, c'est qu'ensuite, c'est lui qui va faire le truc. C'est lui qui va faire le travail. Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est me prêter comme un instrument, comme Marie a prêté son corps à Dieu pour porter le plan de Dieu. Eh bien, nous prêtons notre corps à Dieu. Pareil pour la louange, afin qu'il parle à travers nous sa volonté, de manière à pouvoir légalement réaliser cette volonté sur la terre. Ah là 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 là, c'est énorme. Vous savez, on devrait tous aimer prier. Tous, si on comprend cela, on devrait tous aimer prier. Et on comprend que prier, ça n'est pas perdre son temps, ce qui me donne une bonne introduction pour vous rappeler la conférence de la semaine prochaine, vous allez en entendre parler. Romains chapitre 5. Dis à ton voisin, avant la croix. C'est pas pareil qu'après la croix. Dis à ton voisin, c'est mieux après la croix. Dis à ton voisin, c'est plus facile après la croix. Maintenant, question, comprends-tu pourquoi il n'y a plus de loi après la croix? Tu comprends pourquoi les mérites n'ont plus rien à voir après la croix? Il y a une loi, on n'est pas sans loi. On n'est pas sans loi. Il y a la loi de l'amour. Il y a la loi de semer et de récolter. Il y a quelques petites lois comme cela, mais qui ne reposent plus sur les mérites, qui reposent sur la foi dans le sacrifice de Jésus. La foi dans son obéissance est suffisante pour m'apporter la bénédiction. Complètement différent. Complètement différent. Vous avez trouvé Romains chapitre 5. Il est dit verset 19. « Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par ton obéissance, une multitude de gens seront rendus justes aux yeux de Dieu. » Non. Par ton obéissance, tu seras rendu juste aux yeux de Dieu. C'est ce qu'il est dit? Non. Il est dit « Par l'obéissance d'un seul, tu es justifié. » C'est-à-dire que tu peux te tenir devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché, sans sentiment de culpabilité, de honte ou d'infériorité. Et Dieu va te traiter comme si tu n'avais jamais péché, même si, alors que tout repose sur l'obéissance de Christ. Maintenant, la Bible dit, tout est à nous. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va bénéficier de toutes les bénédictions. Pourquoi? Parce que tout le monde ne croit pas. Maintenant, ça n'est plus une question d'obéissance, c'est une question de foi dans l'obéissance de Christ. Mais je vais vous dire une chose, ce genre d'enseignement, eh bien, fait augmenter notre foi. Ça fait augmenter. Ma sœur, tout à l'heure, dis ce que tu disais dans le, quand on venait là, avec ton histoire de parking. De la semaine, il est là.
Autrefois, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. Et j'étais partie très tard de la maison. Je me dis, oh là là, je sais que si je pars à une certaine heure, après pour me garer, c'est très très difficile. Et j'ai appris avec Dieu à me désengager. À me désengager quand il y a une situation. Et donc, je me dis, oh là là, Seigneur, le parking. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, le parking. Et après, je me dis, non, tu sais quoi, Seigneur, franchement, je ne fais que confiance à la grâce. Cette histoire, je vais me garer à cause de la grâce. C'est vraiment dans son cœur se désengager. Et je dis, Seigneur, par la grâce, c'est même pas mon problème, c'est par la grâce. Je suis arrivée à cet endroit-là et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et non, mais attendez, j'ai trouvé un parking sur un parking, c'était même pas possible. Quand je vais de bonne heure, je n'arrive pas à le trouver. Parce que les gens restent garés d'une nuit à l'autre sur ce parking parce que c'est le seul parking gratuit. Et là, au moment où je suis arrivée, il y a une petite dame qui partait juste et j'ai eu, à vrai dire, une place, mais extraordinaire. Et plusieurs fois, j'ai fait ça, me désengager, au lieu de mettre ma foi en action pour avoir ce parking, je me suis désengagée et j'ai mis ma foi en action en Dieu. Ce qui peut être différent.
Merci. Alors, dans Romains, chapitre 5, verset 17, il y a un autre point que je veux soulever. Je vous ai parlé de la bénédiction, je vous ai parlé du salut. Je vais vous parler d'un autre point après. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous appréciez? Comment divise-t-on? Comment discerne-t-on correctement avant la croix et après la croix? Bien, dans Romains chapitre 5, verset 17, je vous le lis. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause de Christ et une version précise ici-bas. Notre règne, on comprend ce que je veux dire, commence ici. Bien, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 dit « Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. » C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour lui et qui nous délivre du péché. Donc, nous voyons que nous réagissons aujourd'hui à ce qu'il a fait, lui d'abord et nous après. Maintenant, nous avons entendu dans le corps de Christ, que parfois il y a des gens qui croient qu'il y a les péchés de l'ancêtre. En général, il dit, tu sais, mon grand-père. Ma mère. C'est marrant, j'ai jamais entendu, pourtant il devrait y avoir, mais alors, c'est le même schéma, hein. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, oh, tu sais, mon ancêtre, il y a 1230 ans, eh bien, ce qu'il a fait, c'était une horreur à l'Éternel, et à cause de ce qu'il a fait, eh bien, on est dans ces liens générationnels, et nous sommes en train de payer pour la faute. Jamais on remonte aussi loin. En général, c'est le père, le grand-père, peut-être l'arrière-grand-père, mais ça n'a pas beaucoup plus loin. Et c'est à cause de ces versets-ci. Est-ce que vous voulez le savoir? Certains pensent qu'ils sont punis pour les péchés de leurs parents. Il y a ces liens ancestraux toujours liés au péché. Regardez dans Exode chapitre 34, verset 7. Dieu dit, je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Mais vous vous imaginez que tel qu'est fait de l'humanité, au bout de deux générations, il y en a un qui pêche bien et qui entraîne d'autres trois. Donc, il y a certains qui sont pris dans des péchés de trois et quatre générations en même temps. C'est l'horreur. C'est-à-dire qu'on ne s'en sort pas. Tu le prends comme tu veux. Il y en a un qui va se louper et clac. Et toi, tu arrives au 21e siècle et tu as toute une lignée de mauvaises choses là. Je dis, moi, si j'avais su, j'aurais bien aimé vivre au premier siècle, quoi. Et puis, Exode chapitre 20, non, mais c'est quand même écrit, hein. Exode chapitre 20, verset 5, il est dit, tu ne te prosterneras pas devant elles, c'est-à-dire les idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils. Bon, on va reprendre, je vais relire, je vais te donner l'occasion de bien comprendre. Alors, l'Éternel disait, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire que si quelqu'un a péché, ce péché devient générationnel et passe sur les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Et ça, c'est au mieux, s'il n'y en a pas un qui a péché entre-temps. On sait également, c'est encore redit, dans Nombre chapitre 14, verset 18, « Je suis le Seigneur patient et d'une immense bonté, je supporte les péchés et les désobéissances, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses descendants, jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. » C'est-à-dire, Dieu va se souvenir de ses péchés sur trois, quatre générations. Et tu sais, si Dieu se souvient des péchés, je vais te dire, il n'a pas la mémoire courte et il n'a pas la mémoire qui flanche non plus. C'est-à-dire, il n'y a pas bon banania. Alors, maintenant, regardez dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Quelqu'un dit... Mais après la croix. mais après la croix. Et il nous est dit, au verset 12, « Car je leur ferai grâce de leurs injustices. » Wouh ! « Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. » Hébreux chapitre 10, verset 17, c'est le moment, Anne-Marie, dis-le. Amen. Il y a plusieurs Anne-Marie ici. Hébreux chapitre 10, verset 17, puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs péchés. » C'est-à-dire que, avant la croix, oui, des comptes étaient demandés. Après la croix, l'ardoise est remise à zéro. Alors tu vas dire, c'est-à-dire que personne ici ne paye pour les péchés de ses ancêtres. Personne, personne, personne. Alors vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de liens générationnels, de liens ancestraux ? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'il y a des péchés qui affectent jusqu'à des générations. Pas vis-à-vis de Dieu. Dieu ne traite pas quelqu'un en fonction du péché de ses pères. On est sous la croix, mais il y a une réalité. C'est que si quelqu'un, par exemple, on a beaucoup de gens qui se droguent dans notre génération, j'imagine que dans, au temps des Romains, vu ce qui se passait, il devait y avoir aussi pas mal de fumettes dans les temples, etc. Mais... ah oui, je pense pas que le cannabis soit né au XXe siècle. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un se drogue, bon déjà, le bébé que la maman enceinte porte, bien son sang, le sang de la maman, ne sera pas en aussi bon état quand il va dans le bébé. Les tissus qui sont tout autour. Donc déjà là, il peut y avoir un manque nutritif énorme. Et puis, imaginons que ce bébé-là, ben, il arrive dans cette famille, il naît dans cette famille où les gens se droguent. Bon, il y a de grandes chances qu'il va finir par respirer quelque chose à un moment. Et puis, il y a aussi le fait que les gens qui se droguent, ils pensent pas, ils n'ont pas la tête entre les deux épaules. Ils pensent pas de la même manière, ils ne voient pas la même chose que les autres et ils ne parlent pas comme ils devraient parler. Vous ne croyez pas qu'être élevé dans ce genre de famille va affecter la façon de penser de cet enfant, qui va être élevé dans ce contexte-là, va être blessé et va amener, à moins que Christ n'intervienne, il va amener ses blessures dans la propre famille qu'il va créer. Le cycle s'arrête en Christ. Voilà, c'est de cela. Mais on ne peut pas dire que ce soit, par exemple, quelqu'un est né dans une famille, dans une famille, on pourrait dire, dysfonctionnelle. Il est lui-même dysfonctionnel. Ça n'est pas parce que Dieu le punit de la faute de son grand-père. Ça n'a rien à voir avec les péchés. C'est un fait, c'est que Dieu a prévu que les enfants naissent dans des familles pour que le père, la mère, les grands-parents apportent des forces à l'enfant, investissent dans la vie de cet enfant et qu'avec les particularités de cette famille qu'il reçoive, lui-même soit quelqu'un d'unique qui est à même d'aller vers sa destinée. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu qui traite le péché. On n'est plus sous l'ancienne alliance. Avant la croix et après la croix. Aujourd'hui, Dieu te bénit, pas en fonction de tes péchés, pas en fonction de tes bonnes œuvres, pas en fonction de ton service à l'Église, pas en fonction du chèque que tu apportes pour le royaume de Dieu. Dieu te bénit en Christ. Il a compté sur l'obéissance de Christ et maintenant ce qu'il te demande, c'est de savoir en quoi consistait cette obéissance, quelle est l'étendue de cette obéissance concernant ton avenir qui commence maintenant, bien évidemment. Et puis, il te demande de croire à cela. Et je vais te dire, ça vaut la peine de venir à l'église. Moi, je vais vous dire, on ne peut pas traiter les réunions d'église à la légère, parce que c'est à l'église que nous apprenons ce que Christ a fait pour nous. Dis à ton voisin, je vis après la croix. Dis à ton voisin, tout va bien pour moi. Pourquoi ? Ben parce que la même chose... Tu es guéri. Pas en fonction de ce que tu as fait de bien ou de ce que tu as fait de mal. Tu es guéri en fonction de ce que Christ a fait pour toi. Et le Seigneur dit simplement, crois que ce que j'ai fait était suffisant. C'était complet. C'était suffisant pour que tu sois guéri. La même chose pour la provision de tes besoins. La même chose pour tes prières. La même chose pour l'exercice des dons de la foi. Tout ce qu'il s'agit, c'est de croire. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, bien sûr que l'on obéit intelligemment aux directives du Saint-Esprit. Bien sûr que nous suivons ses injonctions, mais non pas sur la base du mérite, parce que nous savons que nous sommes bénis et qu'il est en train de nous conduire vers les spécificités de notre bénédiction, parce que nous sommes un être unique. Je ferai des bons. Parce que c'est énorme, énorme, avant la croix, après la croix. J'ai été pardonné sans que Dieu demande mon intervention. Ma confession des péchés n'apporte pas mon pardon. Il a été donné quand le sang de Christ a été versé. Aujourd'hui, oui, si j'ai péché intelligemment, je vais le reconnaître, dire Seigneur, corrige-moi, aide-moi, montre-moi comment tu peux me conduire vers la victoire sur ce péché. Montre-moi comment je peux me sortir de là, Seigneur. Et avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, je suis victorieux. Je suis victorieuse. Amen. Mais le pardon a déjà eu lieu. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu que quelqu'un qui a péché se détourne de Dieu, on va dire, bien sûr que tu te sens mal, tu as ta conscience qui... Mais la Bible dit, il est mort pour que ta conscience soit purifiée. Donc, nous nous dirigeons vers le Seigneur au lieu de nous en éloigner. Nous restons dans l'assemblée des saints au lieu de nous en éloigner. Et nous disons, Seigneur, oh là là, je veux me rappeler que tu m'as déjà pardonné. Heureusement que tu n'as pas compté sur moi. Merci mon Dieu parce que tu m'as pardonné. Merci mon Dieu parce que tu m'as déjà béni. Et je vais profiter de la bénédiction, du pardon pour avancer avec toi. Dis à ton voisin, tout va bien. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, nous savons que nous avons conquis la mort par Jésus-Christ. Nous savons que rien ne peut nous empêcher d'avancer vers notre destinée. Nous savons que la guérison nous appartient. Nous savons que les exaucements à nos prières nous appartiennent. Nous savons que la victoire sur les puissances démoniaques nous appartient. Nous savons, mon Dieu, qui nous sommes en Christ. Et nous remercions Jésus. Nous louons le Seigneur Jésus de s'être donné gratuitement pour nous. Nous le louons pour ce qu'il a fait de nous. Merci Père pour ce plan rédempteur qui est magnifique. Amen.